dernière partie de ce plateau, on a décidé là dans ce projet de faire remonter aussi des questions d'agents donc qui travaillent à la mairie du Bouscat et qui sont peut-être pas tout à fait aussi convaincu que vous quatre, que nous tous d'ailleurs, sur le sujet de la RSO. Ça peut arriver. Donc on va prendre quelques questions et je m'en ferai un peu le porte-voix. Alors d'abord, peut-être que Florence, vous pourriez y aller sur cette question-là. Je vais vous prendre un exemple alors, qui n'est pas bouscaté, mais qui est celui des agents d'entretien et du rapport à la qualité du travail qu'ils puissent faire. Dans d'autres expériences, j'ai eu la chance de travailler avec des agents d'entretien. Et les agents d'entretien, suite au changement des produits, me disait, écoutez, oui, certes, on a des produits plus écologiques, plus, je dirais, sains pour la qualité au travail, mais j'ai quand même l'impression que ça sent pas bon dans les bureaux que je nettoie, pour le dire comme ça. Alors, du coup, ça m'amène un peu à la question de la responsabilité. Oui, mais à quel prix ? Parce que si on est responsable, mais qu'on perd à travers ça une forme de reconnaissance au travail, et l'exemple de l'odeur, c'est aussi le symbole de la reconnaissance de quelqu'un qui nettoie, eh bien, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Alors Florence, peut-être que c'est un sujet que vous pourriez évoquer au titre de votre boulot à la crèche.
Mais je pense que c'est assez commun, en fait, comme problème sur toutes les personnes qui sont en train de faire de l'entretien. On nous a aussi vendu que l'odeur, ça faisait du propre. On nous a vendu en marketing l'odeur du propre. Moi, ça me pose la question aussi de la valorisation du travail, parce que la valorisation du travail d'un agent d'entretien, ça passe pas par l'odeur. Sachant qu'en général, l'odeur et le parfum, c'est un parfum de synthèse qui est plein de perturbateurs endocriniens et très mauvais pour la santé. Donc, je pense qu'on peut essayer de déconstruire ça et trouver un peu plus de sens. Et moi, je sais qu'on avait eu la problématique inverse aussi, c'est avec les produits d'entretien éco, certes, qui laissent des films noirs sur les sols. Et du coup, c'est vrai qu'on se retrouvait avec les enfants qui avaient des chaussettes couvertes de noir, chaussettes blanches. Et on avait eu aussi la personne qui était venue nous faire une démonstration sur la machine vapeur, qui nous avait fait la moitié d'un tapis. Et la machine vapeur au décrassage. Et on a retrouvé la couleur du tapis et qui était avec un voile pris de tous les produits qui étaient mis dessus. Et le pire de l'intérêt, c'est que les microbes, pour certains, se retrouvent bloqués entre les deux couches. Donc vous ne nettoyez pas vraiment. Donc je pense qu'il faut changer la vision du nettoyage plutôt. Et valoriser les agents d'entretien sur leurs compétences et peut-être aller leur dire que ce qu'elles font, c'est bien.
Et en l'occurrence, vous avez fait comment à la crèche ?
À la crèche, on est passé au nettoyage vapeur et on utilise encore quelques produits parce que c'est pas facile de changer toutes ces habitudes. Et puis on y va petit à petit, ce qu'on dit, en tout cas nous dans le changement, c'est on peut pas tout changer d'un coup et tout révolutionner d'un coup parce qu'on fait une réunion ou une information et d'un coup il faut changer votre bouteille d'eau, il faut changer tout, enfin ça devient tellement énorme qu'on change petit à petit, une chose après l'autre.
Alors deuxième question d'agent, je vais me faire le relais d'une question qui n'a pas été posée en direct, mais qui pourrait l'être. Alexandra, je m'adresse par exemple à toi. Je suis un agent, mais là je suis crevé, quoi. C'est difficile, tu l'as dit tout à l'heure. Ça fait 2 ans que non seulement à titre personnel, j'en prends plein les épaules, mais en plus au boulot, c'est difficile. Et d'ailleurs, c'est pas difficile que pour moi parce que mes collègues s'absentent de plus en plus. Alors comment on fait dans ce bel univers de la responsabilité sociale des organisations, eh bien pour remplacer les agents absents quand moi, je suis encore là mais je suis fatigué, quoi.
Bon, c'est une question très sensible et d'hyper-actualité puisque chacun se la pose. D'abord, tout le monde est furieusement fatigué de ce qui se passe. On se retrouve entre deux injonctions paradoxales. Une, il faut remplacer le plus possible les agents parce que sinon ceux qui restent sont fatigués, il y a un effet domino et donc les services publics peuvent être dégradés. On ne peut pas non plus remplacer tout le monde autant qu'on le voudrait parce qu'on a aussi une nécessité à économiser les deniers publics qui sont les impôts des Bouscatais. Donc il faut trouver une ligne entre ces deux choses qui peuvent être contradictoires. Alors on a des élus qui nous y aident et tout à l'heure notre adjoint a dit que la question de la santé des agents était quand même primordiale. Donc cette santé globale, elle passe par le fait d'éprouver du plaisir à faire son travail et de pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Maintenant, c'est là qu'on voit qu'on passe un cap important avec la RSO, puisqu'on ne va pas pouvoir continuer à travailler sur le même modèle. Donc, qu'est-ce qu'on fait de la pyramide des âges et du fait que certains de nos agents occupent le même poste depuis 30 ans et vieillissent, donc ont des difficultés de santé qui sont importantes? Qu'est-ce qu'on fait de la chute de vocation et de certains métiers, du care et du prendre soin, qui ne donnent plus suffisamment d'envie pour que les gens restent en payant un prix qu'ils estiment être trop important. Voilà. Et ça, c'est la question de l'évolution des métiers, du service public, de sa place dans la société, du travail et de comment est-ce qu'on a envie d'être ensemble. Donc, il y a le rapport, évidemment... avec les syndicats et avec les désirs des uns et des autres d'être bien. Et puis, il y a cette fameuse responsabilité collective qui est-ce qu'ensemble, on peut aussi essayer de trouver des solutions qui soient acceptables pour tous?
Je me retourne vers vous, Alexia. On a parlé tout à l'heure de l'accueil. Donc l'accueil, en effet, il a changé... notamment, pas seulement, mais notamment depuis l'obtention de, enfin, la mise en place plutôt de ces nouvelles procédures, quoi, on peut le dire comme ça, de Caliville. Mais ce qu'on ressent, vous l'avez déjà tout évoqué un peu, c'est bien, y a pas que les agents qui sont fatigués, il y a aussi les usagers. Et on peut même considérer, alors vous allez me le confirmer ou pas, mais que depuis 2-3 années, on va dire 2, il y a une agressivité un peu... exponentielle quand même, qui parfois se cristallise sur le bureau de l'accueil, quoi, en quelque sorte, sur le guichet de l'accueil. Donc qui est là, c'est l'agent qui prend, quoi, en quelque sorte, je mets des guillemets. Est-ce que vous confirmez ça? Et puis surtout, vous, en tant que directrice de cette fameuse relation qui parfois est agressive, on fait comment là pour gérer ça?
Alors oui, effectivement, à l'accueil de la mairie, à l'accueil général, on a des situations... de plus en plus fréquentes d'agressivité, mais aussi dans les services, ce qu'on n'avait pas forcément avant. Donc on se rend compte qu'il y a une montée de l'agressivité, les gens sont mal, et dès l'instant où en fait on leur dit non, parce que ce n'est pas possible, ou réglementairement ce n'est pas possible aussi, de suite ils sont très très agressifs. Donc les agents sont formés, il y a des formations maintenant depuis un certain temps, et aujourd'hui les formations à l'accueil prennent en compte cette dimension, et on a des formations spécifiques pour la gestion des conflits, pour la gestion du public agressif. Donc nos agents sont formés à ces situations pour essayer de les gérer le mieux possible. Et bien sûr, nous, encadrants, nous sommes en relais de ces situations et nous intervenons pour essayer aussi de canaliser l'usager agressif, de trouver des solutions et de protéger nos agents. Protéger nos agents, on a mis aussi en place une fiche de signalement parce que c'était important aussi qu'il n'y ait pas, que ce ne soit pas vu comme un non-événement. L'agression, elle est perçue par nos agents voilà, de manière très différente. Et lorsque l'agent est vraiment touché, très personnellement, il est important de faire remonter cet événement et que cet événement soit traité. Donc voilà, il y a à peu près 6 mois, en fait, on a mis en place cette procédure qui, voilà, elle mérite d'exister aujourd'hui, qui n'est pas utilisée non plus très régulièrement, mais qui permet aussi voilà, de signaler toutes ces situations qui peuvent survenir.
Et qui permet de revenir vers l'agresseur, je mets des guillemets, ou quand même pas. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple en fait, parce que je travaille avec la ville du Bouscat depuis quelques temps, et il y a quelques mois, un peu comme un agent, je suis accueilli à l'accueil quand je viens rencontrer Anne Brochard. Donc j'attends Anne Brochard à l'accueil, et j'observe, je suis sociologue, puis même si j'étais pas sociologue, je le ferais quand même. Bref, et débarque une grand-mère. C'est le jour de la rentrée scolaire. Et elle est très mécontente que sa fille, sa petite-fille, pardon, ne soit pas dans la classe qu'elle attendait. Donc je ne sais plus quelle classe. Donc elle agresse, c'est un mot fort en tout cas, elle est très véhémente, pour le dire de manière élégante, avec votre collègue à l'accueil. En disant, mais c'est pas normal, ma petite-fille devait être dans cette classe, je veux absolument que ça change, et je veux rencontrer maintenant l'élu en question. Parce que comme si les élus avaient le pouvoir de la magie ultime. Enfin bref, n'est-ce pas, monsieur Micole?
On aimerait bien.
Et donc, je peux vous dire que tout ce que vous avez décrit, là, sous le plan un peu théorique, enfin, nous expliquer, ça a été tout appliqué, en fait. C'est-à-dire le calme de la personne, le fait qu'elle fasse redescendre un peu cette pression, qu'elle accueille quand même la demande de la personne, en politesse, et qu'elle lui explique que c'était pas immédiat, mais que oui, on allait essayer au moins d'entendre sa demande sans pour autant y répondre favorablement. Parce que vous imaginez bien, si tous les grands-mères du Bouscat se pointent à la mairie le jour de la rentrée, les écoles, il va plus y en avoir assez, quoi, en quelque sorte. Donc, c'est une bonne illustration de ce que vous nous avez dit, Alexien, quoi, je trouve. D'accord. Donc, ma question, c'était, est-ce qu'on revient vers la grand-mère, là, en lui disant, madame, attention, hein, la prochaine fois, on vous met en attente si vous êtes agressif vis-à-vis de nos agents. On ne va pas jusque-là, quand même, dans la fiche de remontée, là, dont vous parliez.
Fiche de signalement. Non, en fait, c'est traité par rapport à l'agent, en fait, l'accompagner par rapport à la situation qu'il ou qu'elle a vécue.
D'autant plus que parfois, il peut y avoir des agressions psychologiques, morales, voire physiques. Hein. J'espère que ça n'est pas arrivé, mais ça arrive ailleurs.
Non.
Okay.
Non.
Une dernière question, un peu aussi de remontée, je dirais, d'impression ou de pratique. On a évoqué sur le Bouscat, il y a un projet de ressourcerie. Hein, alors, je vous laisserai mieux que moi expliquer ce qu'est une ressourcerie. Et là, il y a une complexité. Alors, Monsieur Micot, je vous regarde. On voudrait mettre en place une ressourcerie. Vous allez nous expliquer en quelques mots ce que c'est. Mais on ne sait pas le faire, quoi. On ne sait pas le faire parce qu'aujourd'hui, on est dans un service public. Bien heureusement, les services publics sont encadrés par des marchés publics. Mais la ressourcerie, pour l'instant, ce n'est pas trop encore dans la réglementation. Comment on fait là devant cette contradiction un peu, quoi ?
C'est une excellente question. Hein. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les agents qui sont pétris de la question de la sobriété et de l'économie des ressources nous disent... On a besoin de nouveaux équipements, mais finalement, des équipements de seconde main, d'occasion, feraient parfaitement l'affaire. Coûteraient sans doute moins cher, et par rapport à l'usage auquel on les destine, ce serait largement suffisant. Aujourd'hui, le cadre réglementaire, et vous évoquiez les marchés publics, il n'y a pas cette case-là. Donc en fait, le marché public, lui, il n'achète que du neuf et sur un certain nombre de critères et dans une procédure. Et on pourrait se dire, et c'est pas notre position, mais bon, on est devant une impossibilité, donc on va acheter du neuf. Non, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est arriver à faire changer le modèle. Et le modèle qui est le modèle actuel est un modèle en retard. C'est un modèle où, finalement, ce cas de figure n'existait pas, ça ne venait à l'esprit de personne, où il n'y avait pas de disponibilité d'équipe de mobilier d'occasion, dans des qualités suffisantes, parce que, bien évidemment, ce n'est pas d'abord l'idée de faire des économies financières. Il faut que ça réponde aux besoins, il faut que ce ne soit pas dangereux pour les agents. On parlait de la santé des agents, il ne s'agit pas d'avoir une chaise qui se casse et que quelqu'un se blesse. Enfin, donc, mais en fait... Moi, je résume ça souvent selon la formule. On fait comme à la maison, c'est-à-dire que on revient. Enfin, j'appelle au vœu de bon sens, nos agents le font extrêmement spontanément. C'est-à-dire, vous, par rapport à un besoin, vous le feriez chez vous. Pourquoi est-ce que ma collectivité finalement ne le fait pas ? Et aujourd'hui, elle le fait pas parce que la réglementation le permet pas. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ? Puisque c'est au fond le sens de votre question, comment est-ce qu'on peut faire bouger le modèle ? D'abord, il faut voir s'il n'y a pas des interstices dans lesquels on peut se glisser. Parfois, il y a des interstices. Même si elles ne sont pas connues ni pratiquées, elles peuvent exister. Si elles n'existent pas, en fait, il faut faire un effet de masse. C'est-à-dire qu'il faut arriver à fédérer d'autres communes de la métropole, puis à un moment donné, de dire, devant ça, on fait voter, en gros, un droit à l'expérimentation. C'est un bon schéma pour dire, ok, on n'a pas la vocation d'aller à l'Assemblée nationale faire changer le code des marchés publics dans la nuit, mais peut-être qu'on peut obtenir, un droit à l'expérimentation. Voilà, c'est ce genre de choses. Alors, soyons clairs, c'est toujours long, ça demande beaucoup d'opiniâtreté, ça peut être... décevant au bout du compte parce qu'on ne sait pas jusqu'où on va y arriver, mais si on n'essaye pas, en tout cas on a une certitude, c'est qu'on n'y arrivera pas. Donc on va essayer.
Alors c'est parfait parce que ça m'amène à la dernière question et celle-ci elle est surprise, je viens d'y penser et j'ai envie qu'on fasse, si vous êtes d'accord, un tour de piste, un tour de plateau, c'est la dernière, promis Alexia. Un tour de plateau, peut-être vous pourriez nous livrer chacun et chacune les uns après les autres une réponse à cette question. En quoi vous vous sentez responsable aujourd'hui dans vos fonctions ? On a ici trois agents, un adjoint au maire. qu'est-ce qui fait que demain, vous avez envie de continuer sur cette voie de la responsabilité? Pas forcément de la sagesse, même s'il y a un peu de ça. On a bien compris, hein, dans la responsabilité, il y a un peu de sagesse, il y a du bon sens, il y a aussi de l'expérimentation, vous venez de le dire, monsieur Micole. Vous, à titre personnel, livrez-nous un peu votre réflexion, même si c'est un mot, une minute, peu importe, sur comment vous vous sentez responsable et comment vous avez envie de l'être, tiens, prenons dans les prochaines années comme horizon. Je ne sais pas qui veut commencer. Alexandre.
Bon, j'aime profondément mon pays, j'aime profondément la République, j'aime profondément le service public. Nous vivons des moments graves d'instabilité et je crois en notre capacité à trouver le nouveau modèle. Et j'y crois encore plus qu'avant.
Ben, directrice de crèche, je pense que je me sens responsable pour les générations d'avenir, en fait, parce que du coup, tout ce que je mets en place là, à l'heure actuelle, c'est sur la responsabilité de l'avenir, de ce qui se passe, mais que ça passe de la violence à comment on dit bonjour à quelqu'un, comment on récupère le camion qu'on voulait fortement, comment on vit en collectivité quand on a moins de 3 ans, et ça, c'est un challenge tous les jours. Et je pense que la petite enfance, on le voit pas de suite forcément les actions que ça peut avoir sur l'avenir, mais c'est une forte action sur l'adolescence future, les futurs adultes de demain. Donc, voilà.
Je ne sais pas si on aura le droit, mais peut-être que les marchés publics vont nous permettre, mais si on faisait le prochain plateau à la crèche avec les enfants de moins de 3 ans, parce qu'il y a de la réflexion hein, chez les petits aussi, et souvent du bon sens. Jean-Georges.
Bah moi, je vais rebondir sur l'avenir. Je crois que l'avenir n'est pas écrit. Et même s'il est contraint, même s'il y a des nuages à l'horizon, à partir du moment où il y a un groupe humain qui a envie de faire des choses, il y a quand même peu d'obstacles qui sont insurmontables.
Très bien, bah, écoutez, on va conclure sur ces belles pensées. Je voudrais remercier dans le désordre le studio Carousel et donc l'équipe qui nous accueille aujourd'hui dans ce très 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 bel outil de travail. Évidemment, la mairie du Bouscat, l'ensemble des services qui ont démarché un peu cette question-là de la RSO qui nous ont aidé à mettre en place ce plateau. L'équipe politique aussi, parce qu'il fallait le tenter, donc je vous remercie d'avoir fait. Je ne peux pas m'auto-remercier, mais je remercie aussi ma collègue de l'opération, Lucille Vias, qui travaille pour l'association Ricochet Sonore, qu'on connaît bien au Bouscat. C'était un super plaisir de discuter voilà, une petite heure avec vous. J'espère que ceux qui l'écouteront et celles qui l'écouteront y prendront plaisir. Et puis, bon, voilà, vous connaissez Anne Brochard, je pense qu'on peut lui faire un petit clin d'œil parce que c'est elle qui pilote aussi cette histoire de RSO. Donc, si ça vous a plu, allez frapper à son bureau. Je pense qu'elle aura des choses à vous raconter. À bientôt et merci encore.